Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce vendredi 31 mars 2023. Attention à vous, à partir de demain, c'est le 1er avril, donc vous allez bouffer toutes sortes de news bizarres. Mais là, on est le 31 mars, donc normalement, tout ce qu'on va se raconter sur l'industrie du jeu vidéo et l'actualité du jeu vidéo devrait être legit et sans aucun piège. On va parler évidemment, bien sûr, des derniers rebondissements, des derniers soubresauts du cadavre de l'E3, en tout cas l'E3 2023 qui est annulé, et on va en parler bien sûr. On aura l'occasion de faire un point sur les prochains jeux, des formules d'abonnement habituelles, en l'occurrence un petit peu de PlayStation Plus, un petit peu de Xbox Game Pass. On parlera des BAFTA qui ont été donc les prix du jeu vidéo en Grande-Bretagne qui ont été décernés hier, les ventes de Resident Evil 4, les ventes du PSVR 2, bien sûr un point sur les derniers retentissements des affaires autour de Xbox, Activision, Blizzard King, le projet de rachat, où ça va, qu'est-ce que ça fait, pourquoi ça fait toujours autant de bruit alors qu'on attend en vérité encore les conclusions des régulateurs, et puis un petit peu de Ubisoft, un petit peu de Crunch, deux mots qui aujourd'hui seront associés, c'est pas toujours le cas, un petit peu de Electronic Arts et de licenciement, deux mots qui sont associés, et ça c'est très souvent le cas, et ainsi de suite. Mais il y aura quand même un peu de jeux vidéo, avec des bandes annonces, ce genre de choses, bien sûr. Mais d'abord, l'E3 2023. C'est évidemment tout un symbole, celui d'une ère révolue. Hier soir, le magazine IGN sortait le premier, cette info exclusive, l'E3 2023 n'aura pas lieu. Et si je n'emploie pas le conditionnel quand ça sort chez IGN, c'est parce que l'organisation qui est derrière le salon, l'ESA, a très vite confirmé les dires de la journaliste Rebecca Valentine. Alors, après avoir en gros joué son va-tout sur cette année, en allant acquérir l'expertise d'une nouvelle entreprise d'événementiel, les fameux Readpop, qui organisent les PAX, la Comic-Con de New York, les célébrations annuelles Star Wars, l'ESA décide de jeter l'éponge. En gros, tous ces nouveaux plans n'ont pas permis de séduire les éditeurs et de fédérer tout ce petit monde autour d'un gros week-end de conférences streamées, comme à l'habitude, ainsi qu'une semaine de salon en présence au Convention Center de Los Angeles. L'un comme l'autre sont donc annulés, ce qu'on voyait un petit peu venir depuis quelques jours après avoir appris au compte-gouttes l'absence de Nintendo, celle de Microsoft, on a un petit peu l'habitude, mais ils restaient voisins, en plus des habituels dissidents qui étaient déjà Sony et Electronic Arts. En plus de ça, Ubisoft s'est retiré de l'événement au début de la semaine, après avoir prétendu qu'il resterait en soutien de cette E3, tout en restant quand même engagé sur le fait d'organiser un événement, l'Ubisoft Forward Live, le 12 juin, qui n'est pas seulement en ligne, mais qui sera quand même en direct à Los Angeles. Donc c'était vraiment une volonté de ne pas participer à cette E3, mais d'être quand même en présence à Los Angeles d'une manière ou d'une autre. Ubisoft, qui pour rappel est généralement le tout dernier à lâcher ce genre d'initiative, c'est généralement le bon copain des autres acteurs de l'industrie. La rumeur donnait également Sega out, Tencent aussi dehors, et c'est donc désormais confirmé, le plus célèbre salon annuel n'aura pas lieu du tout cette année, après une longue agonie tout de même, durant laquelle il a multiplié les tentatives de comeback depuis 2020. Il y avait eu une édition entièrement dématérialisée en 2020. En 2022, ils avaient zappé en disant qu'ils reviendraient plus fort en 2023, en annonçant donc qu'ils feraient à la fois du en présence et du dématérialisé en 2023. Et puis là, évidemment, c'est l'effondrement. Au micro du site Games Industry, il y a le patron de l'ESA qui s'appelle Stanley Pierre-Louis, qui explique, selon lui, bien sûr, les raisons du crash. D'abord, évidemment, le nouvel équilibre trouvé par les éditeurs entre événements physiques et dématérialisé, un équilibre sur lequel il se retrouve beaucoup plus d'un point de vue financier. Le contexte économique aussi, qui a conduit certains motivés à revenir sur de telles dépenses à engager dans l'E3. On pense évidemment à ce moment-là à Ubisoft, qui cherche quand même à économiser 200 millions ces temps-ci. Et évidemment, ce fameux glissement de terrain qui a été déclenché par la crise du Covid en 2020 et donc qui a bousculé les développements de jeux, les calendriers, les catalogues, si bien qu'il est difficile pour un éditeur de venir en force sur un gros événement une fois par an. Et quand je dis en force, je veux bien sûr dire pour le stream, mais aussi avec des versions à l'essai un show floor sur lequel on puisse faire tester des jeux, des démos de jeux, des vertical slice de jeux, etc., etc. Et ça, on le sait, hein, c'est aussi difficile, bien sûr, pour les décideurs, hein, qui ne peuvent plus, du coup, prévoir comme avant le calendrier de leur sortie de jeux vidéo. Ubisoft est encore une fois un excellent exemple, mais c'est également une source d'épuisement immense pour les équipes qui se relèvent là, hein, avec cette disparition de l'E3 2023, parce que les équipes doivent préparer ces fameuses verticales jouables en plus des présentations qui sont vouées à être streamées. Je vous recommande d'ailleurs la lecture, hein, de cette interview de Stanley Pierre-Louis chez Games Industry. Si vous voulez lire vraiment toute la panoplie des périphrases pour dire que le 3 tel qu'on le connaît n'est pas juste mort en 2023, mais probablement mort tout court. Il y a cette phrase que je ne vais pas la citer exactement, mais en gros, l'E3 est né de la volonté des plus grands acteurs de l'industrie du jeu vidéo de se rassembler. Et l'E3 2023 est mort de cette même non-volonté, cette fois-ci, de ces mêmes acteurs de ne pas se rassembler. Et du coup, il laisse penser que si l'E3 devait revenir, ce serait si ces acteurs avaient à nouveau envie de se retrouver. Donc il y a probablement de grandes chances que l'E3 essaie de se trouver une autre légitimité dans les temps à venir. S'il devait revenir et si je devais vraiment jouer les choses au doigt mouillé, j'aurais tendance à imaginer plutôt quelque chose de l'ordre du marché du film pour Cannes ou ce genre de choses. Donc un événement qui soit effectivement véritablement tourné sur le B2B, qui permette de faire aussi bien sûr de la mise en avant, de la diversité, de la variété du jeu vidéo, parce que l'ESA, c'est un groupe de lobbying et l'E3, à la base, est un organe de lobbying pour la reconnaissance du jeu vidéo à une époque où le jeu vidéo en avait sacrément besoin dans les années 90. Donc, ce qu'ils appellent le advocacy, c'est toujours la mission première de l'ESA avant même d'être l'organisatrice de l'E3. Reste à savoir maintenant si, en ne faisant plus d'E3, l'ESA a encore suffisamment de fonds pour exister. Ce sont notamment des questions qui sont soulevées par l'interview donnée à Games Industry. Avec bien sûr pas mal de langues de bois, je vous préviens tout de suite, sur les réponses du boss de l'ESA. Alors on va pas jouer non plus les surpris, hein. Moi je reste effectivement un grand nostalgique de la période la plus folle que moi j'ai pu connaître autour de 2014, 2015, 2016. Des conférences qui tournent un peu mal, des soirées aussi avant ça dans les années 2011, 2012 à commenter ça entre potes sur Twitter, mais plus aucune grosse entreprise n'a envie de faire plaisir à Twitter en recréant des moments comme la présentation par exemple de Wii Music. Je vous laisse la regarder sur YouTube. La vraie cible mass market, maintenant, elle est déjà habituée au Nintendo Direct, au State of Play. Elle engloutit tout rond des soirées bien plus calibrées comme les Game Awards ou la soirée de lancement du Summer Game Fest de Jeff Keighley. Et on ne va pas perdre tout ce temps et tout cet argent à préparer des conférences qui ont ce degré d'imprévisibilité, ce degré de chaos potentiel, alors qu'on pourrait avoir quelque chose de beaucoup mieux préparé, beaucoup mieux timé, où on ne fait finalement que fournir notre bande-annonce. Et puis ensuite, répondre aux questions qui fâchent via des blog posts qui sortent le lendemain, etc. etc. Le salon en présence, en revanche, il y a des évidences criantes, hein, comme le bilan carbone absolument déplorable de ce genre de dispositif, hein, les coûts que ça imposait aux rédactions pour s'y rendre, si bien sûr ces rédactions n'étaient pas invitées, hein, évidemment. C'était aussi beaucoup de... En ce qui me concerne, je m'en souviens comme un endroit avec beaucoup de rendez-vous bullshit, beaucoup de temps perdu, mais quand même, et surtout aux alentours de 2017-2018, autour de l'événement, on avait vu se constituer des alternatives hyper intéressantes, comme la soirée du mix, par exemple, hein, ou le parking de Devolver, hein, qui est lui beaucoup plus connu. Voilà, à titre personnel, entre une soirée du mix où on peut jouer à 40 jeux indés en essai libre et rencontrer leurs créateurs, ou un stream de ces mêmes 40 jeux qui défilent en moins de 30 minutes, moi j'avais fait mon choix. Toute question, bien sûr, de bilan carbone mise à part, j'aurais fait mon choix. Mais c'est pour ça que j'ai toujours préféré la Gamescom, et j'espère surtout qu'elle ne vivra pas le même sort, d'autant qu'elle représente vraiment un carrefour important des négociations business, absolument vital pour les développeurs qui sont en recherche de partenaires commerciaux, par exemple. Mais voilà, c'est un petit peu la fin d'une ère, c'est la fin d'une manière de faire la promotion des jeux vidéo une fois par an avec cette espèce de grand barnum qui essayait de revenir, et ce bien malgré le fait que ce ne soit plus du tout son heure, tout simplement. Hein. L'E3 tel qu'il était, et tel, je pense que vraiment tout ce qu'il aurait pu envisager d'événementiel qui puisse essayer de le faire revenir et de faire revenir capturer à la fois la presse, les influenceurs et le public dans un endroit en physique, avait déjà quelque chose de ringard sur les dernières années, entre bah, déjà les acteurs qui s'étaient désolidarisés, Sony, PlayStation, Electronic Arts dans les premiers, et puis aussi l'impression parfois que les gens qui étaient chez eux avaient presque plus d'informations sur un jeu que nous qui sortions d'une présentation derrière porte close. Le salon a eu mille fois des occasions de changer la donne, de faire différemment et à continuer à faire très traditionnel, trop longtemps. Et l'édition 2019, ça a vraiment été le pompon, puisqu'ils ont essayé effectivement de tout réunir en 4 jours, mais ils avaient déjà été lâchés par tellement de partenaires qu'on a fini avec des conférences sur les crypto games. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'opération. Pardon, je vous parle de l'édition 2021 là. 2021. Mais bon. Effectivement, on a compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre voilà, du conservateur chez l'ESA qui leur a joué des tours. Alors évidemment, qui dit agonie de l'E3, dit Jeff Keighley en embuscade. Hein. L'ex-journaliste, aujourd'hui organisateur des Game Awards et du Summer Game Fest. C'est pas juste une soirée de lancement, c'est tout un été dédié aux jeux vidéo, si vous voulez. Lui, donc, il a passé une bonne partie de la soirée d'hier à danser sur le cadavre du salon de l'E3, tout en faisant bien sûr mine de ne pas y toucher et d'avoir pour la légende de l'E3 le plus grand respect. Hein, évidemment, ça a été un peu long pour être tout à fait honnête et un peu gênant de suffisance, puisque dans ce tweet nécrologique adressé à l'E3 depuis les BAFTA, auxquels il était invité, suivi d'un selfie avec Hidetaka Miyazaki de From Software, hein, Elden Ring, pour rappeler que lui, il a les bons copains et... directement derrière, un rappel de la date de la soirée de lancement du Summer Game Fest. Voilà, c'est pas la première fois qu'il profite effectivement d'une communication négative vis-à-vis de l'E3 pour jouer les vautours. Je suis toujours surpris de la facilité avec laquelle son public, son 1,5 million de followers sur Twitter, le célèbre en conquérant, en tueur de l'E3. Alors qu'il y a des gens qui ont taffé sur le retour de l'E3, qu'il y a des gens qui sont probablement écharpés avec Readpop, etc. pour que ça existe, que c'est un manque à gagner pour plein de pros qui, bah, même si c'est pas la Gamescom, vont quand même à l'E3 dans l'espoir de pouvoir faire des rencontres business. Mais lui, bah, il était juste en mode vautour comme à l'habitude. Mais si on devait vraiment rester sur le cœur de son message... Le rappel, c'est que ce sera le 8 juin pour la soirée de lancement, l'Opening Night Live du Summer Game Fest, sachant que autour, bien sûr, sont déjà prévus le live d'Ubisoft qui aura lieu le 12 juin, celui de Microsoft qui aura lieu le 11 ou le 12, je crois. On pourra évidemment compter aussi sur le Nintendo Direct, hein, qui sera daté le plus tard possible, comme le veut la tradition chez Nintendo. Et puis autour, bien sûr, tous les périphériques, hein, qui se mettront sur le mois de juin. Donc on imagine bien sûr le Tribeca Games Festival, le stream de chez Epic, le stream Capcom, peut-être même un stream Square Enix. Et viendront ensuite se greffer tous les indés, le Guerilla Collective, le Wholesome Games, etc. Vous auriez pu avoir peut-être la chance d'avoir un maximum de ces conférences concentrées sur 4 jours. Ça, c'était la proposition de l'E3. Là, on va rester en mode Summer Game Fest. Ça veut dire que le Summer Game Fest, ça englobe même la Gamescom, en vérité. Tout est une espèce de grand... Voilà, c'est juste des gens qui se tiennent la main et qui se disent on est partenaire, mais d'un point de vue du public, ça ne change absolument rien par rapport à l'an dernier. Je ne vais pas vous faire le grand article d'un des événements fondamentaux du jeu vidéo de cette semaine, à savoir la nouvelle présentation de gameplay de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild 2. Alors on a tout vu, ça y est, on a tout vu, on sait maintenant, on sait à quel point le jeu veut innover sur plein de choses. On va éviter bien sûr de trop se spoiler. Dans cette présentation d'une dizaine de minutes, on a pu voir donc Link se balader d'île céleste en île céleste et présenter les nouveaux pouvoirs. Hein. Vous aviez déjà pu voir, il y avait déjà pas mal de pouvoirs qui étaient liés sur la créativité des joueurs dans le jeu précédent. Et là, ça va pousser vraiment le truc dans ses retranchements avec la possibilité de venir combiner des objets entre eux, combiner les objets, les propriétés physiques des objets entre eux, et ce de manière un peu émergente. Jamais Zelda, alors que Breath of the Wild avait déjà un petit peu de cette ADN là, jamais Zelda n'a autant ressemblé à un immersive sim et à un jeu qui en contient finalement deux. D'un côté, celui auquel joueront la plupart des joueurs qui pousseront la créativité jusqu'à un certain point seulement, et peut-être que pour ces personnes-là, de ce qu'on a vu pour le moment, peut-être que ce monde ressemblera peut-être un peu trop au précédent, même si moi je l'ai déjà dit, je peux tout à fait prendre un 1.5 de Breath of the Wild et je serais très heureux. Après, c'est chacun, c'est à la sensibilité de chacun. Et puis celui de ceux qui vont vraiment se lancer dans cette ode à la créativité, qui vont se fabriquer des véhicules, car oui, on peut se fabriquer des véhicules, on peut fixer des turbines sur des bouts de bois et en faire un radeau ou un avion ou une voiture, qui vont essayer de combiner absolument tous les objets de leur inventaire sur leurs armes, etc., etc. On a déjà vu quelques effets rigolos. Je vais pas tout spoiler, mais par exemple, effectivement, tu mets un champignon sur ton bouclier, la prochaine fois que tu pars au bouclier, ça crée un nuage de spores qui va empoisonner les ennemis, etc., etc. Et a priori, tout ce qu'il y a dans votre inventaire peut être essayé sur tant et tant et tant et tant d'objets, dans tant et tant de situations, pour tant et tant d'effets différents. Donc vraiment un jeu de système qui pousse vraiment l'aspect systémique et l'aspect du coup immersive sim à fond. Alors attention, je sais que pour certaines personnes, immersive sim, ça va avec RPG, et là ce sera évidemment pas le cas, mais je pense qu'il a vraiment réussi là quelque chose, c'est-à-dire aller rechercher une partie du public qui disait est-ce que j'ai vraiment envie d'une 1.5, est-ce que ce sera juste une 1.5. Là voilà, cette vidéo d'un peu plus de 10 minutes présente quand même pas mal de choses, mais présente aussi pas mal de choses qui à mon sens n'est pas forcément ce qui définit Zelda pour beaucoup de gens. C'est quand même une vidéo qui ne fait aucun point sur les sanctuaires par rapport aux temples, combien on peut attendre de temples, est-ce que ce sont des vrais temples façon Zelda ou plutôt façon Breath of the Wild, les quatre principaux. Ça, c'est des questions qui sont encore en suspens en attendant la sortie du jeu, je le rappelle, le 12 mai prochain, hein, ce qui nous amène grosseuse. Voilà, c'est dans un mois et 12 jours. Parlons un petit peu des ventes de dingue de Resident Evil 4 Remake. Alors, on savait que Capcom était en route pour une très grosse année avec les sorties de Resident Evil 4 Remake d'un côté et de l'autre Street Fighter 6. En plus, bien sûr, du reste avec Exo Primal, par exemple. Et bien sûr, le lancement du remake du 4e Resident Evil est en train de poser de très belles fondations pour le reste. Je vous rappelle que ça fait grosso modo 10 ans que Capcom est en croissance. Hein, c'est-à-dire que chaque année est meilleure que la précédente. Et tous les éditeurs ne peuvent pas, effectivement, se targuer d'une telle perf. Et on a donc récemment appris que Resident Evil 4 Remake aurait atteint les 3 millions de ventes, pas de distribution, de vente, en seulement un week-end, en deux jours, sur les journées du 24 et 25 mars. Alors la question, bien sûr, par rapport entre vente et distribution, elle est importante, d'autant que Capcom jusqu'ici ne parlait pas trop en vente, et parlait plutôt en distribution, donc en acheminement jusqu'aux étals. Et donc ça change un peu la manière de communiquer, et s'ils la changent, c'est parce qu'ils peuvent se le permettre. Mais 3 millions de ventes en deux jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Resident Evil Village avait fait 3 millions de distributions en 5 jours. Resident Evil 5 avait fait 2,5 millions en 5 jours, toujours en distribution. Les remakes du 2 et du 3 ont fait 3 et 2 millions de distributions en 5 jours. Et pour chercher une performance qui pourrait faire jeu égal avec celle de RE4 Remake, il y a bien que le 6e Resident Evil, et oui, rappelez-vous que ce lancement a été absolument colossal, qui avait distribué 4,5 millions de copies en 2 jours. Donc effectivement, on fait le versus entre distribution et vente. Mais il y a de très grandes chances, vu ce départ, que Resident Evil 4 Remake soit parti pour être eh bien, le nouveau tenant du titre de cette génération de remake de la série. En tout cas, son démarrage est très clair sur le sujet. Et du côté du site toujours Games Industry, on est allé analyser un petit peu les chiffres de vente au Royaume-Uni. Et sans grande surprise, là-bas, RE4 Remake fait 29% de plus en vente sur son week-end de lancement que ne l'avait fait le jeu original sur GameCube en 2005. Mais ça, c'est assez mécanique et ça vaut normalement pour quasiment tous les remakes de ces époques-là, rapport déjà à l'explosion du nombre de consommateurs de jeux vidéo. Je le disais dans le sommaire, on va parler un petit peu des formules d'abonnement de vos consoliers préférés, en commençant cette fois par le PlayStation Plus, avec les futurs jeux donc à sortir sur les abonnements Premium, Extra et donc Essentiel. Donc vraiment, c'est les jeux qui arrivent dans le grand catalogue. Alors on avait parlé du fait qu'en jour 1, Meet Your Maker, donc une espèce de Mario Maker sauce FPS, on va dire ça comme ça, arriverait dans le service et fort heureusement, hein, puisque le studio Behavior a besoin de beaucoup de joueurs au lancement. Mais on a également Sackboy Big Adventure, ainsi qu'un jeu que voilà, je voulais essayer de vous le repousser quand même parce que je le trouve assez cool. C'est donc Tales of Iron, un petit action RPG à base donc d'attaques colorées à dodger ou à bloquer au bon moment. Et honnêtement, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, la musique est top, l'ambiance est géniale. Moi, je l'avais fait en stream, j'avais beaucoup aimé. Et puisque là, il arrive dans le service, je ne vous dirai pas de vous abonner pour lui. Mais si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à en profiter à l'occasion. C'est envoyé en peu d'heures, hein. Je dirais que c'est un 7-8 heures. Ouais, je dirais un 7-8 heures. Voilà, peut-être un petit peu plus si vous traînassez, mais c'est vraiment c'est typiquement un jeu dont j'espère pour lequel j'espère un second épisode. Bah écoutez, cette fois-ci du côté du Xbox Game Pass, je n'ai pas de visuel à vous proposer, mais c'est pas très grave. Je voulais simplement vous dire que là sur le Game Pass, on a quand même quelque chose d'assez, on va dire, c'est un bon moment de communication pour les jeux du Game Pass du mois d'avril. En l'occurrence, c'est une histoire de jeu Day One. En Day One dans le Game Pass, là vous allez avoir Everspace 2 qui se lance donc le 6 avril, hein, qui sort de son accès anticipé. Donc Ghostwire Tokyo, bon bah lui qui arrive évidemment après son exclusivité PlayStation et PC sur console Xbox, qui arrive le 12 avril. Minecraft Legends, qui pour rappel se lance dans 18 jours, le 18 avril, c'est un autre jeu Day One des 3 Game Pass, hein, PC, Xbox, Cloud. Coffee Talk, l'épisode 2, pareil, boom, directement jour 1 dans le Game Pass. The Last Case of Benedict Fox, pour lequel j'étais beaucoup plus excité avant de jouer à sa démo malheureusement, mais on est encore en droit d'espérer du mieux et d'espérer quelque chose qui soit plus agréable manette en main. Lui aussi, jour 1 dans le Game Pass, le 27 avril. Et Homestead Arcana, je ne sais pas si vous aviez suivi Homestead Arcana, lui aussi est un jeu Day One. Cependant, il arrive dans le mois d'avril, on n'a juste pas encore la date. J'avoue quand même que quant à la capacité sur un mois de dire dans notre service on a tant et tant de jeux indés qui seront accessibles sans frais supplémentaires dès leur lancement, puis que tu arrives à plugger quand même un jeu qui commence par Minecraft quelque chose, ouais, ça fait un bon petit catalogue, sachant que rien ne les empêche de recommuniquer sur la deuxième partie du mois avec quelques jeux supplémentaires. Ah, il me manque Cassette Beasts peut-être dans la liste, Cassim. Merci beaucoup. Alors Cassette Beasts, c'est l'un des nombreux aspirants Pokémon-like dans lequel vous n'utilisez pas des Pokéballs, mais un Walkman avec lequel vous allez enregistrer les monstres sur votre Walkman, puis ensuite mixer éventuellement des monstres pour créer des méta-monstres entre eux. Au niveau de la direction artistique, ça ressemble quand même pas mal à Coromon, qui faisait un peu la même chose, mais lui qui avait un autre système que le Walkman. Et ça sort, merci Cassim, le 26 avril sur PC et donc dans le Game Pass PC. Et voilà, tant qu'on y est et tant qu'on parle du Game Pass, sachez également que Microsoft a décidé de supprimer la formule d'essai à 1€ du Xbox Game Pass. Plusieurs médias anglophones ont été les premiers à remarquer la disparition de cette option sur la page d'abonnement au Game Pass, la fameuse et très célèbre offre 1€. euros pour un mois d'essai. Et donc le site Windows Central est allé interroger Microsoft sur le sujet, et la réponse officielle de Microsoft, c'est que cette offre était, je cite, « une offre de lancement ». C'est vrai que ça fait quelques années qu'il se lance, hein, le Game Pass. Une offre de lancement, donc, et qu'elle est désormais interrompue pour de bon, mais que Microsoft travaille à la conception d'autres offres commerciales qui permettraient d'attirer justement les nouveaux abonnés. Donc cette offre à 1€ va très probablement très vite être remplacée par quelque chose d'autre qu'on verra très probablement très vite, d'abord testé sur un territoire avant d'être déployé sur les autres. On va parler un petit peu de votre feuilleton préféré, bien sûr, hein. Xbox, Activision, Blizzard, King, Sony, GeForce Now et tout le monde. D'abord, on va parler du régulateur de la concurrence au Japon. Eh bien, sachez que la JFTC, à savoir la Japan Federal, la Japan Fair Trade Commission, plutôt, n'est-ce pas, eh bien, a donné son go à Activision, Microsoft, tout ce petit package. Sans grande surprise, hein, bien sûr, la JFTC ne voit pas de risque pour la concurrence dans une fusion entre Microsoft Xbox et Activision Blizzard King. La surprise est évidemment nulle, dans le sens où chaque régulateur parle pour son propre marché et qu'au Japon, Xbox peine encore en 2023 à atteindre ne serait-ce qu'une position d'outsider crédible. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué depuis qu'on parle de cette affaire, le Japon n'a jamais figuré dans la liste des territoires considérés comme pivots, hein, dans la question du feu vert. Les États-Unis, oui. Le Royaume-Uni, oui. L'Europe, oui. La Chine, oui. Mais la Xbox, honnêtement, la Xbox au Japon, honnêtement, c'est évidemment pas une question. En revanche, sorti de cette histoire, on a un gouvernement américain qui, après s'être penché sur l'état de la guerre Microsoft versus Sony sur son territoire, fait ces jours-ci la découverte de l'état de la compétition au Japon sur ce fameux marché de la console à haute performance qui exclut du coup Nintendo et sa Nintendo Switch. Et cette fois-ci, ce n'est pas la FTC américaine, mais une escouade de sénateurs démocrates qui s'est mise en tête, à moins bien sûr que quelqu'un lui ait mis en tête, d'aller demander des comptes au Japon, ou en tout cas de demander à son gouvernement d'aller demander des comptes au Japon dans le cadre d'un accord qui s'appelle le US-Japan Digital Trade Agreement, qui en fait encadre le commerce numérique entre les États-Unis et le Japon. Un accord qui dit notamment que les membres doivent veiller à ce que les entreprises extérieures aient une chance de concurrence sur le pays de l'autre. Or, PlayStation posséderait au Japon, si on met bien sûr Nintendo de côté, 98% du marché de la console haute performance, pour toutes sortes de raisons qui évidemment n'intéressent évidemment pas le politique américain. Et ce chiffre écrasant n'empêche pas les régulateurs japonais de laisser signer des deals d'exclusivité à PlayStation avec les éditeurs japonais, avec des jeux dont la portée est parfois globale, comme par exemple, au hasard, Final Fantasy XVI. Plusieurs lettres ont donc été adressées par des sénatrices et des sénateurs à l'administration Biden pour l'enjoindre à prendre contact avec le gouvernement japonais à ce sujet. Et si vous cherchez un peu d'où vient cette soudaine éruption de plaintes issues de sénateurs, je vous conseille de zoomer sur l'état de Washington, hein, duquel sont issus la moitié des sénateurs indignés, et c'est également l'état où est installé Microsoft, et on est là face à une très belle opération de lobbying dont le but est en fait d'allumer une sorte de contre-feu, hein, et d'obtenir des appuis en prévision des négociations à venir aux États-Unis. Si j'en parle, c'est parce que tout ce boxon est imbibé depuis des mois, hein, même d'un point de vue du public, sur les réseaux sociaux, etc., d'accusations qui visent à peindre les législateurs américains dans leur ensemble comme une sorte de monolithe extrêmement partial qui protégerait Sony plus que de défendre la concurrence. Dans le magazine Axios, en revanche, les sources du journaliste Steven Totilo assurent que Microsoft est bel et bien impliqué dans cette soudaine prise de conscience gouvernementale, bien pratique quand l'heure est à pointer du doigt celui qui sera le plus anticoncurrentiel des deux. Mais tout ça, évidemment, c'est uniquement du combat d'image, hein. Il n'y a absolument aucun sénateur qui arrivera à convaincre l'administration Biden de faire une clé de bras à l'administration japonaise pour qu'elle empêche Square Enix de signer des deals, qu'elle empêche PlayStation de signer des deals d'exclusivité avec Square Enix. Cependant, il était important, là, effectivement, de remettre un petit peu les choses pour Microsoft, bien sûr, d'allumer ce contre-feu qui va servir, qui pourra servir même dans les discussions vis-à-vis de la FTC. On pourrait se retrouver par exemple avec une série de lettres de sénateurs ou une lettre ouverte de sénateurs qui serait adressée à la FTC dans le cadre donc du conflit qui l'oppose toujours à Microsoft, puisque c'est des régulateurs, celui qui est le plus certain, enfin qui a clairement dit pour l'instant, nous, c'est pas on y est peut-être opposé, c'est on y est opposé. Mais moi, je voulais vous en parler parce que souvent les gens disent on a un peu l'impression que Sony a les politiques dans la poche. Contre-exemple, ça permet de remettre un petit peu les choses à l'équilibre. Pendant ce temps, chez Activision, on a un Bobby Kotick qui sort de plus en plus de sa retraite médiatique, une retraite auto-imposée depuis quelques années maintenant, et distribue lui-même les bons et les mauvais points, plutôt que de laisser sa directrice de communication, la nouvelle directrice de communication d'Activision, faire tout le sale boulot elle-même. Donc mardi, ça prenait la forme d'un billet de blog signé donc Bobby Kotick, président de Activision Blizzard King, et publié sur la page Substack d'Activision. En fait, c'est la copie d'un email qu'il a fait parvenir à toutes les équipes. Un email dans lequel il va surtout réitérer les éléments de langage du moment, car rappelez-vous, c'est avant tout une question de pédagogie. Le projet de rachat est bon pour tout le monde. Microsoft a fait ce qu'il fallait pour rassurer les régulateurs des marchés. On a la plus grande confiance dans la validation future du rachat, aussi bien devant l'Union européenne qu'au Royaume-Uni, avec qui on a eu la chance de pouvoir discuter, et blablabla, bla bla, et Call of Duty chez Nvidia sur GeForce Now pendant 10 ans, et Call of Duty sur Nintendo pendant 10 ans, et le consortium ainsi formé sera à même de tenir tête à des grands groupes étrangers qui, eux, sont protégés par leur gouvernement, et blablabla, bla bla, Tencent, etc., etc. Pas vraiment de trucs extrêmement frais. Et puis, faut pas oublier quand même que Sony doit rester le méchant, surtout avec les arguments habituels. Ils mentent, ils n'ont pas d'arguments, ce sont des géants, alors que nous on est tout petits avec nos 8,35 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais Bobby est magnanime avant tout, et dans la tempête, il a tenu à l'écrire, je le cite à propos de Sony, « C'est évidemment un comportement décevant venant d'un partenaire commercial de 30 ans, mais nous ne laisserons pas les actions de Sony affecter notre relation à long terme. Les joueurs PlayStation savent que nous continuerons à proposer les meilleurs jeux possibles sur console Sony, comme nous l'avons fait depuis le lancement de la marque PlayStation. » C'est vraiment « va, je ne te hais point », quoi. C'est vraiment la sortie par le haut. On n'est pas bien, là, avec un Bobby Kotick qui s'érige en modèle de raison, de mesure et de vertu, pour pouvoir ensuite prendre ces plusieurs centaines de millions de dollars de bonus au moment du rachat. En tout cas, chez Sony, on doit être absolument ravi d'être pris en étau entre les sénateurs américains d'un côté et le top management d'Activision de l'autre, qui nous tire dans les pattes tout en disant régulièrement « Mais on n'est pas fâché. Mais on vous privera pas de nos jeux. Mais vous êtes des bâtards. Mais on n'est pas fâché. » Je pense que Jim Ryan, honnêtement, doit pas passer des journées incroyables. Vraiment. Chez Ubisoft récemment, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, pendant ce temps, pendant toutes ces histoires autour de Activision, Blizzard, King, Xbox, tout ça, on a le syndicat Solidaire Informatique, par l'intermédiaire de sa branche au sein d'Ubisoft Paris, qui essaie de maintenir la pression sur Ubisoft et qui a publié une dizaine de jours une petite infographie. Elle est très rapide, cette infographie, mais elle dit ce qu'il y a à dire. Just Dance 2023, un an de production. Plus de 10% des effectifs ont vécu un burn-out, avec une petite astérisque qui dit « Selon les informations dont nous disposons, les chiffres réels sont peut-être plus élevés, un arrêt de travail toutes les 4 semaines » et des petites courbes qui vous expliquent un petit peu les questions de surtravail au sein donc d'Ubisoft Paris. C'est ce que dit le syndicat Solidaire Informatique à ce moment-là. Une illustration en gros de la méthode Just Dance 2023, un projet de jeu qui aurait beaucoup coûté sur le plan humain, puisqu'on parlerait, comme on le disait donc, d'un minimum de 10% des effectifs en burn-out au cours de la production qui a duré un an. Et donc le magazine NME a décidé d'approfondir la question et a pris contact avec plusieurs sources au sein de la force de travail d'Ubisoft Paris. Et donc le journaliste Andy Brown a vite recroisé les mêmes infos qui semblaient être évoquées par Solidaire Informatique. Il semblerait bel et bien que le développement de Just Dance 2023 ait fini par revêtir des apparences de quoi qu'il en coûte. Hein. Avec des journées en mode 9h du matin, 10h du soir, et des je vous donne des exemples hein, bien sûr, hein. C'est jamais des horaires qu'il faut imaginer à la hauteur de toute l'entreprise. Il y en a qui travaillaient peut-être moins, il y en avait aussi très probablement qui travaillaient beaucoup plus. Hein. Des situations voilà, où l'assurance qualité passait manifestement le début de la nuit au bureau, des heures payées, mais d'abord soumises à un système de contrôle assez strict, qui se serait ensuite un peu relâché, comme très souvent avec les systèmes de contrôle des heures sup, jusqu'à devenir la norme, une norme encouragée verbalement dans les réunions en petit comité, les fameuses réunions en petit comité avec les managers. Alors bien sûr, on sait que c'est une maladie de l'industrie, mais la théorie bien sûr, c'est qu'Ubisoft emploie beaucoup plus de gens sur ses projets, presque deux fois plus de gens qu'un autre éditeur de sa taille, pour aussi éviter, limiter en tout cas, les situations de surtravail. Dans la pratique, en revanche, une fois qu'on sort de la théorie, les sources du magazine NME, elles parlent d'un développement au gré de demandes de plus en plus écrasantes du top management d'Ubisoft, comme celle de transformer Just Dance 2023 en jeu service au cours de son développement. Les équipes auraient donc produit une feuille de route réaliste pour une telle transition. Transition qui manifestement demandait aussi de changer de moteur, une feuille de route qui aurait été très vite refusée par la direction, toujours selon les informations du magazine. À la place, Ubisoft aurait déclenché un genre de marche forcée visant à transformer justement Just Dance en 11 mois jusque dans le moteur utilisé, en promettant d'affecter plus de personnes au projet pour finir le développement de manière acceptable. Le problème, c'est que le changement de moteur a été brutal, non consultatif et imposé aux équipes sous prétexte que le nouveau était mieux pour faire des jeux-services. Il leur a donc fallu en 11 mois apprendre les nouveaux outils, à coder sur ce moteur, à intégrer sur ce moteur, bref, à prendre un moteur soudain imposé par les cadres et ce sans qu'ils aient pu avoir quelque chose à dire sur le sujet. C'est quelque chose que j'ai pu recouper de mon côté en plus de l'article de NME. Et le résultat, c'est un jeu qui, pour tenir sa sortie de fin d'année, malgré ce revirement forcément mouse, eh bien n'a pas cessé de couper encore des fonctionnalités dans une masse de demandes formulées par les patrons qui avaient l'air d'arriver vraiment au fil de l'eau. C'est ce qu'on m'a expliqué à moi en gros. Hein. Si vous avez joué au jeu, ça ne vous surprend certainement pas, hein, vu qu'il est aussi sorti avec pas mal de soucis techniques, de bugs et ainsi de suite. C'est parce qu'en gros, on leur demandait de faire tellement de choses, en plus de faire migrer Just Dance vers un nouveau moteur et d'en faire un jeu service, qu'ils ont été obligés de faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Le but était évidemment de ne pas se rater sur la date de sortie, sur le sapin de Noël, avec des résultats évidemment bénéfiques pour Ubisoft. Pas du tout. Il est considéré comme un échec commercial de l'année dernière par Yves Guillemot, parce qu'un jeu, buggé et qui rate son virage vers le jeu service, ça marche pas. Alors, selon NME, ce que les sources nomment culture du crunch et cette forte pression justement appliquée aux employés, eh bien, ça toucherait a priori toutes les équipes d'Ubisoft Paris actuellement, qu'elles aient travaillé sur le dernier Just Dance, qu'elles aient travaillé récemment sur Mario et Lapin Crétin, Sparks of Hope, hein, qui pour rappel a été développé certes chez Ubisoft Milan, mais aussi beaucoup chez Ubisoft Paris, mais aussi l'équipe Beyond Good and Evil 2 qui se trouve à Ubisoft Paris, car le jeu n'est pas uniquement développé à Montpellier. Et l'article de NME se termine sur un signe positif. Les personnes qui ont été interrogées par le magazine, elles semblent voir un espoir dans la nomination au printemps 2022 d'une nouvelle personne au poste de directrice des studios Ubisoft. C'était l'ancienne directrice d'Ubisoft Paris, Marie-Sophie de Vaubert, qui est manifestement vue, en tout cas par les sources entendues par NME, comme une potentielle force de changement positif dans la gestion des équipes pour la suite. Encore une fois, c'est probablement pas un sentiment entièrement partagé au sein du groupe, mais c'est ce que NME a entendu. Et en parlant de nomination justement chez Ubisoft, Ubi vient d'annoncer il y a quelques jours donc un changement dans la composition de son fameux pôle éditorial, avec l'arrivée à l'un des postes de vice-président, il y a plusieurs postes de VP, de Cathy Scott. Alors, la créatrice, elle arrive tout droit de chez Xbox, et plus précisément, de chez The Coalition, où elle s'est occupée, en gros, d'un poste de Game Design Director sur Gears 5, après avoir passé 10 ans chez Electronic Arts, être intervenue sur 4 jeux FIFA, jusqu'à FIFA 2020. Son parcours a notamment été marqué par deux initiatives, l'encadrement des efforts d'accessibilité de The Coalition sur Gears 5, et on comprend que ça sera l'un de ses violons dingres au sein du nouveau pôle éditorial qui fonctionne désormais par sous-pôle, on va dire, au mini-pôle, et également la conception de process de mise en avant des questions de représentation dans le développement de jeux et des jeux sur lesquels elle a travaillé. Et là aussi, évidemment, on imagine assez naturellement comment les employés et les joueurs inquiets d'un retour du bon vieux pôle éditorial Ubisoft à l'ancienne peuvent être rassurés par une nomination comme celle de cette créatrice. Reste maintenant à savoir sous quelle forme sera finalement stabilisé le fameux Global Creative Office, car c'est comme ça maintenant qu'on appelle le pôle éditorial, ça a changé de nom. Petit changement de nomenclature, petit coup de novlangue là-dessus, ça fait toujours du bien quand même. On sait qu'il a subi de nombreux changements hein, depuis les départs des Tommy François et des Serge Ascoët. Igor Manceau de Ubisoft Annecy l'a dirigé pendant un temps, mais il est déjà parti. Ubisoft a annoncé dans la foulée que tout ça se serait restructuré par pôles, on va dire, qui ont chacun des particularités. D'autres noms sont arrivés au sein du pôle éditorial, comme Bernd Diemer, qui est ex-chef du design chez Dead Island 2. Alors, lequel des développements de Dead Island 2, ça je ne sais pas, et qui lui par exemple sera concentré sur l'aspect social, interconnexion sociale dans les jeux multijoueurs du catalogue Ubisoft. Donc maintenant en fait on n'est pas juste VP dans une espèce de grande salle qu'on imagine en train d'échanger des idées, mais on essaie de pousser des sujets particuliers. Alors évidemment hein, dans le cas de Cathy Scott, Ubisoft n'a pas attendu Cathy Scott pour pousser l'accessibilité dans ses jeux, ça fait ben, un bout de temps maintenant que l'entreprise, avec tous les mots qu'on lui connaît, est vraiment en avance là-dessus et a permis de piloter cette charge-là, conduire cette charge-là à côté des Naughty Dog, des Santa Monica, des Guerrilla Games, etc. Et là, je sens que je vous ai quasiment filé de l'espoir et je voudrais pas que ça reste trop longtemps. Hein. On est quand même dans le jeu vidéo. Hein. Voilà. Du coup, on va parler d'Electronic Arts. Donc, la valse des licenciements de masse n'était pas tout à fait terminée chez Electronic Arts, qui vient à peine de faire l'annonce, pour rappel, il y a quelques semaines, de 200 employés d'assurance qualité et de support clients qui ont été licenciés autour du projet Apex Legends, et qui, déjà, annonce une nouvelle réduction de personnel. Et cette fois-ci, c'est du massif, du vrai massif. On parle de restructuration, c'est 6% de la force de travail de la masse salariale d'Electronic Arts, 800 personnes sur un total de près de 13 000 qui vont être prochainement renvoyées par l'entreprise ou replacées pour ceux qui peuvent, mais il y a de grandes chances qu'une grande partie soit renvoyée. Le président Andrew Wilson explique sa décision. Alors Andrew Wilson, quand il explique une décision, c'est ChatGPT, hein, c'est pareil. Et je vais le citer, il explique sa décision. Je cite, mieux cibler le portefeuille de projets, t'as déjà envie de crever, abandonner les développements qui n'entrent plus dans la stratégie d'Electronic Arts, on a hâte de connaître lesquels, ou remettre à l'étude l'empreinte immobilière de l'entreprise et restructurer certaines équipes. Remettre à l'étude l'empreinte immobilière de l'entreprise ? Oh ! Dis que tu veux fermer des bureaux ! Donc ça c'est, voilà, ça c'est Andrew Wilson, ok ? Tu vois un peu le mec, quoi. À côté de ça, vous remarquerez comme aucune de ces excuses ne fait intervenir la situation financière d'Electronic Arts. On n'entend pas parler de réfection, etc., etc. Peut-être d'ailleurs que les 225 millions de bénéfices au dernier trimestre et les 20 millions annuels de salaire de Wilson font que ça colle pas trop pour parler de soucis financiers qui t'obligent à faire ces coupes. Alors autant y aller franco. Andrew Wilson le dit, il précise même dans cette note qui a été publiée donc sur le site officiel que cette restructuration décidée par Electronic Arts, elle est ordonnée depuis ce qu'il appelle une position de force. Nous allons bien donc nous licencions 800 personnes et il est donc bien question d'aller chercher là ce que les patrons comme Andrew Wilson appellent la performance, donc d'alléger le bateau, l'entreprise c'est comme une montgolfière, etc., etc., autant que, dans le but d'optimiser autant que possible la rentabilité. Maintenant la question, au-delà de qui sera replacé, replaçable où dans ces 800 personnes, ça fait quand même du monde là, hein, eh bien ce sera aussi de savoir quels ont été les projets qui sont passés à l'as, parce que quand on supprime 800 personnes, et comme il le dit lui-même, il y a des projets qui ne s'inscrivent plus dans la stratégie de l'entreprise, qui sont annulés et qui vont finir au frigo ou au caniveau. Le problème, c'est qu'Electronic Arts, une stratégie d'entreprise, ils en changent tous les 3 ans. Cas développement de jeux vidéo, ça dure 5 ans, et forcément, bah, ça fait de la casse. Puisque, bah, voilà, on imagine que d'ici à ce qu'ils ils arrivent sur un succès comme... je sais pas, peut-être le prochain Star Wars qui arrive dans quelques semaines, ils auront peut-être décidé que le jeu solo s'est terminé, qu'il faut revenir au jeu multijoueur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Lundi, le scénariste Chris Avellon a publié sur son blog un nouveau billet, ça faisait longtemps, dans lequel il se félicitait, donc il se félicite, d'une récente victoire sous la forme d'un accord à l'amiable trouvé avec Carissa Barrow, et Kelly Ray Bristol, donc deux femmes que lui avait attaquées en diffamation en 2021, après qu'elle l'ait publiquement accusé à l'été 2020 de comportements non professionnels, de prédation, d'agression à caractère sexuel et de maltraitance psychologique, non pas juste sur elle, mais sur de nombreuses collaboratrices féminines non nommées, et tout ça sur une longue période de temps au gré des projets sur lesquels il a collaboré. À la suite de ces déclarations publiques et de quelques autres qui avaient été faites par d'autres personnes au même moment, plusieurs de ses employeurs, Techland pour Dying Light 2 ou Artsuit pour Vampire Bloodlines 2, avaient cessé leur relation de travail avec le scénariste, et c'est là qu'il avait décidé d'attaquer ses accusatrices pour obtenir réparation quant au préjudice causé par leur prise de parole. Sur son blog, Avellon détaille les petites lignes de cette victoire. Le dossier n'est donc pas allé devant un juge, ça a donc été une menace de procès, et qui a fait l'objet d'un arrangement. Un arrangement qui empêche les deux femmes de s'exprimer à nouveau contre lui et qui, en plus, lui permet de se dédommager financièrement. Ça, c'est un élément qui distingue ce dossier-là de bon nombre d'autres et on va en parler. Cet arrangement engage les deux femmes également à lui verser une somme d'argent, une somme à 7 chiffres, selon ses dires, soit 1 million de dollars minimum, toute question de solvabilité mise de côté, évidemment. Le tout sur fond de prise de parole prônant le calme, appelant le public à ne pas harceler ses accusatrices et à respecter, comme il dit le faire, leur engagement pour une plus grande propreté de l'industrie du jeu vidéo. De leur côté, on a Barrows et Bristol qui publiaient un communiqué commun, publié en forme de rétropédalage, hein, véritablement, dont on comprend assez clairement qu'il fait partie du package de l'arrangement, parce que ça c'est pas un truc qu'on publie de son plein gré, c'est un truc qu'on publie et qu'on rédige avec un avocat. Monsieur Avellon ne nous a jamais agressé, nous n'avons connaissance d'aucune agression dont il serait l'auteur, nous n'avons connaissance d'aucune utilisation illégale de fonds professionnels dont il serait l'auteur, il n'était pas dans notre intention de laisser entendre l'inverse dans aucune des choses que nous avons pu écrire ou dire par le passé. C'est un rétropédalage demandé lors de cette négociation entre les différentes parties. Le ping-pong, en fait, est parfaitement orchestré. Les deux femmes rappelant qu'elles ont été mal comprises et que ça ne doit pas entacher leur combat pour une industrie plus sûre pour toutes et pour tous, pendant que Avellon, lui, comme je le disais, faisait de même, appelant à ne pas harceler ses ex-accusatrices et à respecter justement leur engagement, comme je le disais. C'est donc assez clair, Avellon a obtenu de quoi laver son nom publiquement. Et c'était justement le but de sa plainte. Pour rappel, on ne porte pas plainte pour diffamation, on en a parlé chez Canard PC il y a quelques jours, dans le but de prouver que ce qu'on a dit sur vous est faux. On porte plainte pour diffamation dans le but de faire reconnaître les différents préjudices moraux, financiers, etc., que les accusations nous ont occasionnés. Souvent, d'ailleurs, on voit des dépôts de plainte dont le but est de venir imposer une pression financière sur ses accusateurs ou ses accusatrices pour réduire ses voix au silence, pour les assécher financièrement. C'est ce qu'on appelle un dépôt de plainte abusif, et aux États-Unis, ça s'appelle une slap. Je vous laisse vous renseigner sur les slaps, il y a une très bonne vidéo sur le sujet. Et c'est potentiellement sous cette forme que la plainte de Avellon pouvait être perçue au départ. Il avait porté plainte contre 100 personnes, Carissa Barrows, Kellyrae Bristol et 98 personnes indéterminées qu'il estime avoir donné de l'écho à ces accusations. Mais quand Barrows et Bristol ont tenté devant un juge de faire valoir le caractère abusif auprès de la justice de cette plainte pour qu'elle soit annulée, elles n'ont pas eu gain de cause. C'est donc une procédure qui, si elle avait été jugée, ce qui n'a pas été le cas, ça n'aboutit pas en fait sur des conclusions à propos des faits. On n'en sort pas en disant « la justice a déterminé que j'étais innocent », mais on en sort en disant « la justice a déterminé que ces personnes ont eu tort de prendre la parole publiquement à mon égard ». Seulement voilà, ici coup de théâtre, il y a cette matière supplémentaire, ce truc qui, en creux, donne justement à conjecturer à ce public qui cherche justement à épingler la cancel culture, etc. Puisque Chris Avellone, il le sait pertinemment quand il communique là-dessus, eh bien voilà, il va pouvoir auprès du public utiliser ou en tout cas jouir de l'argument du fait qu'il a pris de l'argent. Il a pris $1 million. Il l'a obtenu à l'amiable en plus du silence. Ce qui laisse penser en fait que Avellone avait un très fort ascendant sur la situation, comme par exemple la certitude qu'elle ne pourrait pas prouver leurs accusations, ou autre chose, hein, parce qu'on ne connaît pas évidemment tous les détails de l'affaire, et qu'il en a profité pour leur faire payer ses frais de justice, ainsi qu'une compensation pour les jobs perdus, en plus bien sûr de la rétractation de leur déclaration, de la promesse de ne pas le porter plainte contre lui, etc. etc. Encore une fois, ça ne dit rien de ce qui s'est vraiment produit, puisque pour ça, il aurait fallu que l'affaire elle aille devant un tribunal, qu'il soit débouté de sa plainte en diffamation, qu'une seconde procédure se saisisse ensuite des preuves du premier procès pour statuer sur les peines et amendes potentiellement encourues par Chris Avellone. Ça aurait pris beaucoup plus de temps que ça. Ça nous dit simplement que Avellone a obtenu réparation financière via négociation, le silence intégral autour de cette histoire, la garantie que les deux femmes ne pourraient pas l'attaquer en justice, ainsi que le droit, du coup, d'écrire un blog post pour dire que son nom est désormais lavé. Ce qu'il fait, bien évidemment. On n'a jamais parlé ici de Dark and Darker, mais il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu parler un petit peu de Dark and Darker, puisque niveau hype, c'était pas franchement le dernier. Dark and Darker, c'est grosso modo, si je devais vous résumer ça, Escape from Tarkov dans un univers moyenâgeux. Du coup, effectivement, c'est assez normal que vous n'en ayez pas entendu parler ici. Et si j'en parle au passé, si je dis c'était un Escape from Tarkov dans un univers moyenâgeux, c'est parce que le jeu a, pour l'instant, disparu de Steam à la suite d'une intervention légale de l'éditeur-développeur Nexon, éditeur-développeur coréen. Le truc, c'est que Nexon n'est absolument pas éditeur du jeu. En revanche, c'est là-bas que certains devs du jeu travaillaient avant de se faire la malle pour monter leur studio Iron Mace et développer leur premier jeu original Dark and Darker. Et c'est justement cette question de l'originalité du jeu qui titille un petit peu Nexon, qui accuse ses anciens employés d'avoir basé leur création sur un prototype de projet qui a été annulé depuis et qui s'appelait P3. Donc annulé par Nexon, ce projet-là, et sur lequel travaillaient certains justement des développeurs qui sont partis pour fabriquer le studio Iron Mace et Dark and Darker. Et selon Nexon, Dark and Darker comporterait non seulement des éléments visuels et sonores issus du prototype de P3, mais aussi du code. Deux choses qui lui ont permis d'invoquer le DMCA auprès de Steam et de faire retirer le jeu le temps que l'affaire soit tirée au clair. Le jeu a donc été retiré de la vente, je cite, pour « utilisation non autorisée d'éléments copyrightés et de secrets de fabrication ». Une accusation hein, que Nexon appuie en rappelant que le lead projet sur P3, qui bosse maintenant chez Iron Mace, avait justement été licencié après qu'on l'ait pris à stocker du code sur un serveur privé. Effectivement, c'est pas aidant. Pour Nexon, et là je les cite encore, il est impossible qu'Iron Mace ait développé Dark and Darker dans un si court laps de temps sans utiliser des propriétés volées. Chez Iron Mace, on nie en bloc et on va même jusqu'à plaisanter que utiliser le code de P3 aurait ralenti le travail plutôt que de l'accélérer. On aime bien troller un petit peu chez Iron Mace, attention. Eux expliquent la vitesse de développement du jeu par une utilisation massive d'éléments disponibles à l'achat sur le marketplace Unreal Engine. Et ils invitent leurs anciens employeurs à fournir le code du prototype de P3 aux autorités pour qu'elle procède à une comparaison les autorités. Et pour pousser la chose un peu plus loin, Iron Mace, qu'on venait chercher certes sur le vol de code, mais aussi l'idée même de plagiat du concept de jeu, ils ont publié un long texte de leur côté, un texte qu'ils ont fait rédiger par ChatGPT. Après qu'il lui ait demandé, et c'est là qu'on voit le troll, « Décris-nous un dungeon crawler PVP multijoueur assez générique, médiéval bien sûr. » La description obtenue, une fois qu'elle a été créée par ChatGPT, elle s'applique effectivement aussi bien à P3 qu'à Dark and Darker, et ça empêcherait selon eux, leur ancien employeur de crier à l'idée protégée, tant ces idées sont génériques. Si vous cherchez la première défense par manque d'originalité de l'histoire, on l'a peut-être trouvée avec ces mecs-là. Fallait la tenter. De là donc, le jeu n'est toujours pas revenu à la vente sur Steam, et les deux parties, quand elles auront fini d'échanger des politesses, se retrouveront certainement soit dans un tribunal, soit dans un salon d'arrangement à l'amiable pour régler tout ça, avant que le jeu évidemment ne réapparaisse, parce que évidemment que le jeu va réapparaître, il faudra juste que tout l'argent ait été versé dans les bonnes poches. Quelques petites brèves avant de passer sur les trailers, car oui, au bout de ce long tunnel d'affaires de l'industrie, il y a quand même quelques trailers. Marc Dara revient chez BioWare, parce que BioWare, c'est un moulin. On s'en va, on revient, bon. Bref, BioWare entre en gros dans la dernière ligne droite du développement de Dragon Age, le loup implacable, car oui, c'est la version française, c'est la traduction française de Dreadwolf, officielle hein, la traduction, et on apprend donc que le studio est en train de rebalancer, rééquilibrer ses forces en interne, une partie des effectifs qui travaillaient sur la pré-production du prochain Mass Effect, qui est très 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 loin de nous, et peut-être même encore plus loin de nous maintenant, va être réalloué à Dragon Age. Et plus surprenant, on a un retour de Marc Dara, qui revient donc, je le disais, en qualité de consultant. Alors Marc Dara, co-réalisateur sur Dragon Age 1 et 2, producteur exécutif sur Inquisition, qui avait quitté BioWare en 2020, voire qui avait claqué la porte en 2020, et s'était montré très vocal à propos des soucis de la méthode de BioWare, la fameuse BioWare Magic, qui en gros fait ce qu'elle peut pendant un temps, puis compte sur une grosse portion de crunch institutionnalisé pour que tout vienne s'imbriquer en fin de développement. En tout cas, alors en fin de ce qui ressemble à la fin, du développement, parce que parfois justement, tu commences à cruncher, tu crois que la date c'est là, et puis en fait la date c'est dans 6 mois, puis en fait c'est dans 12 mois, enfin, Skull and Bones quoi. Lui revient justement en conseiller premium, alors même que ce Dragon Age est plutôt connu pour faire fuir les vétérans que pour les faire revenir, hein, puisqu'il a déjà servi de toile de fond au départ d'un directeur de studio, de deux directeurs créatifs et d'un producteur. La plupart justement des ressortissants de la vieille garde de BioWare, je pense par exemple à Mike Ledlow ou à Casey Hudson. Et a priori, il voudrait le faire travailler sur, voilà, les aider à fignoler. Je pense que quand ils disent qu'ils sont dans la dernière ligne droite, ça vaut pas exactement la même chose dans leur tête que dans la nôtre, parce que si tu es dans la dernière ligne droite mais que tu vas chercher Marc Dara en consulting, c'est que t'es pas en train de débugger ton jeu. C'est très probablement que tu es encore en train de fignoler ce qui est censé le rendre amusant, ce qui est censé le rendre plaisant, manette en main, etc., etc. Donc attention bien sûr à cette formulation, mais ça veut aussi dire qu'il rajoute du staff sur le projet, ce qui veut aussi dire que Mass Effect est encore très très loin de nous, mais ça je vous l'avais déjà dit, n'espérez rien de concret à propos de Mass Effect avant 2025 pour juste des teasers rapides de ce que le jeu est censé contenir, et 2026, ensuite 2027 très probablement pour Mass Effect, à vue de pied hein. Multiversus va battre en retraite grosso modo et se relancer en 2024, après une première vie qui a vu donc ce Smash Bros like signé Warner Bros commencer très fort hein, souvenez-vous, hein, c'était la sensation de l'été dernier, puis perdre 99% de ses joueurs ou quelque chose comme ça, à terme bien sûr, par manque de mise à jour et manifestement aussi par impréparation et de manque de vision sur la durée, hein, ce qui est un peu le piège absolu de ces jeux services faits par souvent des gens qui n'ont jamais fait de jeu live jusqu'ici, bah, ces jours-ci, on apprend que ce lancement, un petit peu comme l'offre de lancement du Xbox Game Pass, n'était en fait qu'une bêta.
Non, pas le jeu, pas le vrai jeu, non, c'était pas le lancement, vous avez mal compris, Non, c'était une bêta, on vous dit que c'est une bêta.
Je cite, « La bêta ouverte de Multiversus a été l'occasion d'apprendre beaucoup de choses et un tremplin vers la prochaine phase du jeu. Il y a encore beaucoup de travail à faire et nous avons une vision plus claire des points sur lesquels nous devons nous concentrer, en particulier sur la cadence du contenu, avec de nouveaux personnages, cartes et modes pour offrir plus de façons de profiter du jeu, ainsi que des améliorations au niveau du netcode et du matchmaking. » Voilà. Donc, en gros, à la fin de ce très long paragraphe que je ne vous citerai pas en intégralité, on nous explique que dans les semaines et les mois à venir, Multiversus va gentiment être ramené au garage, et puis ensuite qu'on va, d'abord évidemment couper la vente, les transactions dans le jeu, puisque c'est un modèle free-to-play. Ensuite, on va gentiment le ramener, non pas au fond du jardin pour lui mettre une balle dans la tête, mais a priori, le ramener à l'atelier et réorganiser un lancement tout simplement, puisque là le jeu en fait a besoin d'une nouvelle histoire marketing intégrale, donc un relaunch avec une feuille de route beaucoup plus claire, ne pas être pris au dépourvu par son propre succès, ce qui est un petit peu ce qui semble lui être arrivé, et donc un relancement l'an prochain en 2024, si tant est bien sûr que le jeu soit relancé. Alors la question bien sûr qui se pose à partir de là, c'est ok, vous le ramenez au garage et vous promettez qu'il va revenir, est-ce que vous allez me rembourser pour les choses que j'ai achetées dans le jeu ? C'est un jeu général, je n'ai pas dépensé d'argent dans Multiversus. Et la réponse de Warner est la suivante, lol, mais bien sûr, à terme, quand le jeu reviendra, ce que vous avez acheté, vos Founders Edition, etc., ça vaudra toujours, hein. Ça vaudra toujours pour le... Ça sera valable dans le jeu, évidemment. C'est pas des voleurs, hein. C'est Warner, c'est pas pareil. On verra si le jeu revient, déjà. Une chose après l'autre. J'en ai parlé au moment du sommaire, les ventes du PS VR 2, quelques semaines après son lancement officiel. Donc un récent article de Bloomberg s'est fait l'écho d'estimations réalisées par le cabinet IDC. Estimations sur les ventes de casques PS VR 2 depuis sa mise en service le 22 février dernier. Et malgré donc ces nombreuses réussites techniques, vous savez que c'est un casque que moi j'aime beaucoup, le deuxième casque de Sony parviendrait à peine à taper d'ici la fin des 6 premières semaines de commercialisation les 300 000 ventes. Pour l'instant, il serait à 290 000, ce qui n'est pas un chiffre incroyable du tout. Hein, ce qui devient carrément alarmant si on croit encore le rapport de Bloomberg d'il y a un an dans lequel certaines sources donnaient un Sony espérant, dans la fenêtre de lancement, dont on ne connaît malheureusement pas les limites, 2 millions de casques distribués. Alors bien sûr, il faudrait justement définir cette fenêtre de lancement selon Sony. Mais même si elle venait à être bien plus large dans les petits papiers de Sony, comme par exemple jusqu'à la fin de l'année, ce lancement s'annonce effectivement comme l'échec qu'on sentait arriver. Et les pistes de cet échec sont faciles à identifier entre le prix du matériel, évidemment, la crise actuelle du coût de la vie, on est en plein dedans, l'instabilité du marché du travail chez les premiers consommateurs de VR, qui sont quand même souvent des gens qui sont proches des milieux technologiques, et c'est pile poil ces milieux qui sont en train de licencier en masse non-stop, bien sûr, on a déjà un climat financier de lancement qui est pas top, évidemment. Mais ajoutez à ça, en plus, les champions du métavers, hein, qui démantèlent tranquillou leurs opérations sur le sujet, comme Meta par exemple, et de manière générale, le marché du casque VR a pris un sacré coup dans les dents ces dernières semaines à cause de ça, par association. Récemment, hein, le chef des thunes de chez Sony, Chief Financial Officer, ça va, avait dit lors d'une conférence qu'il restait confiant dans le fait que le PSVR 2 ferait sur l'intégralité de sa ligne de vie autant que le PSVR 1, soit 5 millions d'unités. Ce qui en soi n'est pas un objectif de succès, c'est juste un objectif de non-échec. En comparaison, si je peux me permettre une comparaison qui ne devrait pas être faite puisque le Quest 2, lui, est un casque autonome et peut exécuter des jeux par lui-même, ça change beaucoup la donne, mais le Quest 2, c'est 20 millions d'unités. Donc effectivement, on sent bien que Sony ne visait pas non plus incroyablement haut, même sur la, le très long terme pour le PSVR 2. Plus surprenant, effectivement, ce report de Bloomberg qui disait qu'ils espéraient 2 millions assez vite après le lancement du casque. Comme je le disais, le casque est vraiment bourré de qualité, mais il a un vrai problème de prix. Et de manière générale, même son lancement n'a pas été accompagné de la meilleure des manières. On a un vrai problème de confiance, de sensation de confiance de Sony PlayStation vis-à-vis de son dispositif. On n'a pas l'impression qu'ils y croient. On a l'impression qu'ils vont laisser les autres développeurs y croire pour lui, grosso modo. Et c'est un problème. Et du coup, pendant que chez Sony, on pense qu'on fera quand même au moins les 5 millions durant la ligne de vie du casque, eh bien pour l'analyste du cabinet IDC justement qui a rendu ses estimations, il s'appelle Francisco Geronimo, eh bien de tels chiffres ne pourront être atteints sans une grosse baisse de prix du casque et de ses contrôleurs qui sont vendus dans un seul pack, hein, bien sûr. Et évidemment, ce dernier article de Bloomberg, Sony s'est refusé à tout commentaire officiel. Alors déjà, je voulais faire un petit point sur quelques jeux que vous auriez pu rater durant cette semaine de jeux vidéo au niveau des sorties. Alors, on a Dredge, dont on avait parlé récemment, qui est donc un jeu de pêche, mais également un jeu d'horreur, à la fois très mignon et très flippant. N'hésitez pas à vous y intéresser. Il y avait bien sûr Have a Nice Death, qui a lui... trouver un pas mal d'écho hein, auprès des grosses chaînes Twitch, donc je pense que vous avez déjà vu un petit peu ce Dead Cells-like avec le chef du département de la mort, littéralement la mort, qui décide d'aller botter le cul de ses sbires qui ont pas trop bien compris comment fonctionnait la chaîne de commandement, manifestement. On a Terranil également chez Devolver, hein, Devolver qui s'est fait le plaisir d'un jeu sur la décroissance, dont le but est effectivement de débarrasser une planète de l'influence humaine, d'y replanter des arbres, d'y refaire couler des cours d'eau et ensuite de démanteler toutes ces installations et de se barrer une fois qu'on a réinstallé la nature. Alors c'était un petit peu moins un city builder que ce qu'on imagine et un petit peu plus un puzzle game que ce qu'on imagine, un truc à garder en tête. Mais si vous aimez Dorf Romantique par exemple, ce sera pas du tout un problème. À côté de ça, il y avait deux jeux que je voulais mettre en avant parce qu'ils sont aussi sortis cette semaine, mais ils ont eu un peu moins d'exposition. Le premier, c'est Drop, c'est chez Microprose. Oui, j'ai prononcé Microprose en 2023, et c'est donc un jeu de hacking, n'est-ce pas ? Drop System Breach, vous l'aurez compris, est donc un jeu, donc c'est un petit peu comme les mini-jeux de hacking dans les Immersive Sims, sauf que là c'est le principe de jeu avec pas mal de choses qui vont s'étendre en termes de possibilités au fur et à mesure. On me demande si la musique c'est The Algorithm, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. The Algorithm a sorti effectivement la BO de The Last Spell il y a pas très longtemps, ça y ressemble, c'est vrai. Mais donc Drop System Breach, hein, pour le nom complet du jeu, si vous voulez le retrouver sur Steam, sorti cette semaine. Et l'autre que je voulais mettre en avant, c'est le jeu de Johan, je suis désolé d'avance d'avoir massacré le prénom, Vinet. Le jeu s'appelle Lunark. Si vous avez connu Another World, eh bien un Another World français vient de sortir, disponible sur PC et sur Switch. Moi j'ai commencé la version Switch, elle est très bien. Et c'est basé sur quoi Another World? Eh bien c'est du platformer cinématique avec des puzzles bien sûr, basé sur le fait que viser, se mettre accroupi, tout ça, ça prend du temps et faut jouer de manière séquencée quoi. C'est marrant parce qu'en rejouant un jeu, je me suis dit il partage avec Resident Evil 5 les mêmes Resident Evil 5 a une version un peu 3D de Another World finalement, ou de Flashback. On va plutôt effectivement dire Flashback, dans le sens où c'est y a peu de balles et c'est difficile de viser. Et c'est ça aussi qui fait une partie du sel du jeu. Donc Lunark, je préfère... Attendez, c'est... Ah ben vous allez avoir le pouce à chaque fois, vous avez beaucoup beaucoup de chance. Lunark, je préfère vous prévenir tout de suite, vu que ça honore Flashback, je sais pas pourquoi j'ai dit plus Another World que Flashback, mais vous allez effectivement vous retrouver avec de l'hommage, mais je trouve ça très agréable à jouer, mais faut connaître ces systèmes de jeu, faut connaître cette prise en main, qui effectivement quand vous engagez une roulade, le personnage va faire une roulade quoi, et ensuite une fois qu'il va s'arrêter, il va donc recover, se remettre en position de base, quand il va, ça va être rigide, c'est volontairement rigide, mais je trouve pas ça désagréable à partir du moment où on n'est pas complètement réfractaire à cette expérience là. S'il avait été plus on va dire fluide, ça n'aurait pas été un véritable hommage à Flashback. Donc on se déplace, quand on met vers l'avant le personnage, il va se déplacer d'un cran. Il va pas, voilà, vous avez quelque chose effectivement de très à l'ancienne là-dessus, que j'explique malheureusement très mal. Récemment, qu'est-ce qu'on a vu aussi d'assez cool ? Eh bien, on a Final Fantasy XVI, qui n'a pas trop aimé. Alors, il y a plus de gameplay qui est sorti très récemment, manifestement, via la PAX, mais Final Fantasy XVI, qui n'a pas trop aimé qu'on dise, mais dis donc, ta dernière présentation de gameplay, quand les influenceurs, ils ont essayé le jeu et la presse, etc., c'était tout gris. Mais il a fait genre, ok, d'accord. Continue à mal me parler, s'il te plaît. Continue à me dire que mon jeu est aigri. Surtout, n'hésite pas. Et du coup, ça nous donne eh bien, cette petite présentation qui est donc dédiée au monde de Valistea et qui effectivement bon, permet de se faire un peu plus une idée des différents biomes, des différents endroits, des différents... On est quand même censé visiter tout un monde, hein, bien sûr pas en monde ouvert, mais on est quand même censé ressentir véritablement le voyage, et je dois dire qu'il a plutôt bien réussi son coup, en tout cas auprès, à mon avis, des gens qui avaient peur que ce soit 100% la grisaille et 100% les couchers de soleil. Après, on aime ou on n'aime pas hein, ces palettes de couleurs là qui sont pas non plus, c'est pas non plus Xenoblade, hein, bien sûr. Mais ça a de la gueule, je trouve, et le jeu est capable de dérouler des trucs assez chouettes. Vous avez donc cette vidéo qui s'appelle World of Valistea, avec un peu de Soken au passage pour vous faire ce petit plaisir. Sachant que, en parlant justement de Forspoken, eh bien, vous avez un DLC qui est prévu. Hein, le studio a déjà été réintégré au sein de la grande famille Square Enix, mais Forspoken avait promis un DLC et le sortira le 26 mai. Un DLC qui s'appelle In Tanta We Trust. Si vous avez joué à Forspoken, vous savez ce que c'est que Tanta. Et du coup, il n'y a pas de bande-annonce, mais évidemment, ils en font la communication. C'était un petit peu la promesse, c'était de dire qu'importe ce qui arrivera à Lumineuse Productions, le DLC sortira. Et maintenant, du coup, il est daté. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous proposer ? Alors, récemment, on a regardé la bande-annonce de Atlas Fallen. Vous vous souvenez du prochain jeu des créateurs de The Surge ? C'est difficile à dire, les créateurs de The Surge. Bref, les créateurs de The Surge avaient sorti donc cette bande-annonce-là qui remontrait un petit peu la direction artistique du projet, cet action RPG sur lequel, dans lequel on va notamment glisser, votre personnage va avoir vraiment une sorte de hoverboard intégré magique sur lui. Arrêtez de parler de Forspoken tout le temps, parce que je sais qu'à chaque fois que les gens voient le personnage se déplacer dans Atlas Fallen, ils disent « Ah, c'est Forspoken !» Bon, c'est des mouvements traversants, on appelle ça normalement. C'est peut-être l'effet sable qui vous fait cette impression. Bref, le jeu normalement devait sortir plutôt là, dans les semaines à venir, mais puisque les previews en plus ont plutôt été bonnes, figurez-vous, à propos du jeu, Focus s'est dit bah, qu'est-ce que je vais aller me foutre à sortir ça en avril ou en mai ? Et je vais plutôt le repousser un peu. Résultat, Atlas Fallen, que vous voyez en image juste ici, est repoussé au mois d'août, ce qui permettra d'arriver après quelques mastodontes de l'année, après les Zelda, après les Diablo 4, après tout ça, et puis d'essayer de se faire un trou effectivement sur le mois d'août qui peut être effectivement un vecteur de bonnes surprises. Parfois il y a suffisamment de place. Alors ça c'est l'ancienne date bien sûr, parce qu'il n'y a pas de nouvelle bande annonce, mais vous avez l'idée. Du côté de chez Tekken 8, on continue la communication, je vous diffuse pas ça, mais sachez que si vous suivez vraiment, ou si vous avez envie de suivre les présentations de personnages de Tekken, on a eu récemment la présentation de gameplay de King, celle de Jack 8, celle de la maman de Kazuya, Jun Kazama, bien sûr, Lars également, qui a été présenté. Vous voyez, je trempe tellement dans le lore de Tekken que je ne dis pas Jun Kazama, je dis la maman de Kazuya. Voilà. Alors que c'est la maman de Jin en plus. Pas du tout la maman de Kazuya. Donc ça devient extrêmement gênant. Un autre truc que je voulais vous passer assez rapidement, dans la mesure où ben, le jeu bien convaincu sur sa dernière démo, alors qu'à la base on regarde un petit peu de loin en mode « Oui, il est sympa ton pixel art, mais on n'est pas trop sûr, etc. » Rusted Moss sort dans 12 jours. Et Rusted Moss, c'est un jeu de plateforme action en 2D avec un grappin élastique. C'est-à-dire que c'est pas un grappin tracteur, c'est pas un grappin balancier, c'est vraiment comme avoir constamment de quoi faire du saut à l'élastique dans le jeu. Moi, j'ai envie de jouer à ça. Ça a l'air particulièrement énervant. Rusted Moss, donc je le disais, sort le 12 avril. Et là, on va embrayer sur une petite série de jeux qui sortent dans les temps à venir, dont je voulais vous parler un petit peu, histoire que chacun en ait pour son style. Bon, évidemment, avec ce que j'avais sous la main aussi. Hein. Le 13 avril, le lendemain, ce sera la sortie en accès anticipé de Fabledom. Et Fabledom va vous proposer de vous faire votre petit village trop mignon, bien sûr. Donc l'arrivée en accès anticipé, hein, édition Dear Villagers, comme je disais, 13 avril, donc dans 2 semaines, ce sera l'occasion de se pencher dessus. Puis ensuite on se dirige vers le 24 avril, et là attention, alerte, potentiel, comment vous dites-vous ? Banger, s'en fout, Shadows of Doubt, c'est un jeu d'enquête à génération procédurale. Donc d'enquête, littéralement d'enquête, hein, avec de la filature, avec de la collecte collecte d'indices, avec toutes sortes d'ambiances, effectivement, de films noirs. Et Shadows of Doubt, qui a une démo que vous pouvez essayer, je crois, toujours sur Steam, commence son accès anticipé le 24 avril prochain. Ça fait un bout de temps que les gens qui aiment les vrais jeux d'enquête, c'est-à-dire les jeux où on enquête vraiment, pas les jeux où un personnage enquête pendant que vous faites des petits jeux de taquin, ou que vous remplissez des cases à cocher, eh bien, s'intéressent à ce jeu-là et en font un potentiel, une potentielle sensation. Donc j'ai très 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 hâte d'y jouer. Ah oui, c'est en voxel aussi, je suis désolé. Shadows of Doubt, le 24 avril, en accès anticipé sur Steam. La question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut s'attendre à des textes en français ? Écoutez, l'éditeur Fire Shrine Games sur l'affiche YouTube a l'air de dire que oui, pas d'audio en français évidemment, mais des sous-titres et une interface. Est-ce que ce sera dès le début de l'accès anticipé ou pas ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous garantir. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Après, vu que c'est de la génération procédurale de narration, il y aura peut-être des petits accidents hein, au départ. Mais j'ai tellement, tellement, tellement envie de m'y foutre pour de bon. Je me suis même tenu un peu éloigné de la démo, pour être tout à fait honnête. J'en ai regardé un peu de gameplay sur YouTube, mais je me suis tenu éloigné de la démo parce que je voulais au moins avoir, on va dire, la latitude offerte par le début d'accès anticipé. Et ça, évidemment, on ne ratera pas. Ça sera streamé sur la chaîne sans faute. Un dernier pour la route, et puis après, je vous laisse tranquille. Il s'agit de Odinfall. Odinfall a été confirmé pour cet été, sans plus de d'autres dates pour le moment. Alors, c'est du pixel art. Je sais qu'il y en a déjà eu. Hein. Je disais qu'il allait avoir un petit peu... qu'il y en aurait pour tous les goûts. C'est encore du pixel art. Et là, ce sera plutôt pour les fans de Nuclear Throne. Bon, parce que ça s'explique un peu tout seul quand on voit le jeu. Moi, je suis curieux. Ah, mais c'est également Fire Shine Games. Et les deux sont chez Fire Shine Games ou... Attends, je vérifie un truc. Ah oui, c'est pas Fire Shrine, c'est Fire Shine. Les deux, en fait, effectivement, ont communiqué assez récemment. Donc voilà pour Odinfall, un twin stick shooter avec effectivement pas mal de secousses à l'écran et évidemment de la combinaison d'armes, etc. Au niveau de la lisibilité, je trouve ça pas si mal, hein, honnêtement, vu que c'est quand même un des premiers écueils de ce genre de jeu. Et je demande à voir, je pense sincèrement qu'à terme, c'est le genre de jeu qui devrait proposer une démo. Voilà donc pour aujourd'hui. Vous avez un bon tour de l'actu du JV, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, voilà, pour être sûr... Il n'y a pas un truc qui soit passé à l'as, qui soit sorti assez récemment. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail si vous le désirez en passant par utip.io/gotose ou tout simplement en vous rendant sur le QR code qui se trouve à l'écran, qui a été réparé, figurez-vous, le QR code, une technologie qui nous a été envoyée du fin fond des années 2010 et de retour fonctionne et renvoie sur utip. Voilà, donc merci infiniment pour votre attention, comme d'habitude, merci pour votre question, pour vos, votre curiosité, évidemment, cette curiosité dont je parle. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de streams non prévus, mais aussi toujours cet hebdo du vendredi après-midi. Je vous souhaite bon jeu. Il y a de quoi faire. Les Lunarques, les Drops, les Have a Nice Death. J'imagine tous les gens qui sont encore sur Resident Evil 4 Remake, etc., etc. Prenez grand soin de vous. Merci infiniment. Si vous êtes en live, restez dans le coin. Il va y avoir un raid. À plus !